Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 11. Les barons voleurs, les rebelles. Première partie. Dès 1877, on pouvait voir se dessiner certaines tendances qui allaient se confirmer au cours des dernières années du siècle. Les Noirs seraient contenus, les grèves chez les travailleurs blancs combattues, et les élites politico-industrielles du Nord et du Sud prendraient fermement les commandes du pays pour gérer la plus importante période de développement économique de toute l'histoire de l'humanité. Tout cela se réalisa aux dépens des mains-d'œuvre noires, blanches, chinoises, européennes et féminines, rétribuées en fonction de la couleur, du sexe, de la nationalité et de la classe sociale. Ce brillant édifice destiné à stabiliser l'organisation hiérarchique de l'économie du pays institua divers niveaux d'oppression. Dans la période qui sépare la guerre de sécession de l'année 1900, la vapeur et l'électricité remplacèrent la simple force physique de l'homme. Le fer remplaça le bois, puis céda lui-même la place à l'acier. Le procédé Bessemer permettait de transformer 3 tonnes de fer en acier en 15 minutes au lieu d'une journée auparavant. La mécanisation permit d'actionner des outils en acier et le pétrole servit aussi bien à la lubrification des machines qu'à l'éclairage des domiciles, des rues et des usines. Le train, propulsé par la vapeur sur des rails en acier, transportait les biens et les personnes d'un bout à l'autre du pays. En 1900, on comptait déjà près de 300 000 km de voies ferrées. Le téléphone, la machine à écrire et la machine à calculer accélérèrent considérablement le rythme des affaires. La mécanisation transforma également l'agriculture. Avant la guerre de sécession, il fallait 61 heures de travail pour produire l'équivalent de 0,4 hectares de blé. En 1900, il ne fallait plus que 3 heures et 19 minutes. La production industrielle de glace, en permettant le transport de produits alimentaires sur de longues distances, facilita l'essor de l'industrie alimentaire. La vapeur actionnait les broches de l'industrie textile, ainsi que les machines à coudre. Cette énergie était produite à partir du charbon. Les foreuses pneumatiques permettaient d'aller chercher le charbon de plus en plus profond. L'extraction du charbon passa de 14 millions de tonnes en 1860 à 100 millions de tonnes en 1884. Les fourneaux à charbon permettant de changer le fer en acier, la production d'acier s'accrut également. 1 million de tonnes en 1880. 25 millions de tonnes en 1910. Plus tard, l'électricité remplacera progressivement la vapeur. Le fil électrique dépendait du cuivre, dont le volume passa de 30 000 tonnes en 1880 à 500 000 tonnes en 1910. Pour en arriver là, il avait fallu tout le génie des inventeurs qui imaginèrent de nouveaux procédés et de nouvelles machines, toute l'intelligence des organisateurs et des administrateurs des nouvelles industries. Un pays riche en terres et en minerais, et enfin, une gigantesque réserve de main-d'œuvre humaine pour accomplir le travail dangereux, insalubre et exténuant. Des immigrants arrivèrent donc d'Europe et de Chine pour constituer cette nouvelle main-d'œuvre. My corduroy breeches I put on to work upon the royal way I'm weary of the railway poor paddy works on the railway. Quand Quant aux fermiers qui ne pouvaient acheter les nouvelles machines ou s'acquitter des coûts de transport imposés par les compagnies ferroviaires, ils durent se résoudre à quitter leurs terres. En certaines occasions, c'est l'inventeur lui-même qui gérait ses propres affaires, tel Thomas Edison, inventeur de très nombreux procédés électriques. Mais le plus souvent, des hommes d'affaires faisaient appel à un certain nombre de procédés inventés par d'autres, tels Gustavus Swift, boucher de son état, qui, en alliant le wagon et l'entrepôt réfrigéré, mit sur pied en 1885 la première entreprise alimentaire d'envergure nationale. De son côté, James Duke utilisa une nouvelle machine à rouler les cigarettes qui pouvait à la fois rouler, coller et couper des tubes de tabac au rythme quotidien de 100 000 cigarettes. En 1890, il rassembla les quatre plus grands fabricants de cigarettes américains pour constituer l'American Tobacco Company. Si certains milliardaires avaient d'abord connu la pauvreté, tel n'était pas le cas pour la plupart d'entre eux. Une étude portant sur les origines de 303 dirigeants de l'industrie textile, des chemins de fer et de l'aciérie des années 1870 montre que 90% d'entre eux étaient issus des petites et grandes bourgeoisies. Les traditionnels contes de fées sur la transformation du loqueteux en riche étaient peut-être vrais pour une poignée d'individus, mais il s'agissait avant tout d'un mythe, au demeurant bien utile pour apaiser l'ensemble de la population. De nombreuses fortunes furent édifiées légalement, avec la collaboration active et souvent grassement payée des gouvernements et des tribunaux. Thomas Edison promit à chacun des politiciens du New Jersey la somme de $1000 en échange d'une législation qui favoriserait ses intérêts. Daniel Drew et Jay Gould versèrent $1 million de dessous de table pour obtenir du Parlement de l'État de New York l'autorisation officielle d'émettre pour $8 million d'actions bidons, ne correspondant absolument pas à la valeur réelle de la compagnie ferroviaire Erie Railroad. La première ligne de chemin de fer, transcontinentale, fut construite dans le sang et la sueur par la politique et le vol en réunissant la Union Pacific et le Central Pacific. My belly was empty, my hands were raw with working on the railway, the railway. I'm weary of the railway, poor Paddy works on the railway. Le Central Pacifique partait de la côte ouest et se dirigeait vers l'est. La compagnie arrosa Washington de plus de $200 000 de pots-de-vin pour obtenir gracieusement 3,6 millions d'hectares de terre et quelques $24 millions en subventions diverses. En outre, la compagnie ferroviaire versa, pour la construction des voies, $79 millions à une entreprise qui, en fait, lui appartenait, 36 millions de plus que le coût réel de la construction. 3 000 Irlandais et 10 000 Chinois y travaillèrent pendant 4 ans, avec pour tout salaire $1 ou $2 par jour. L'Union Pacific démarrait au Nebraska et se dirigeait vers l'ouest. Cette compagnie s'était vue accorder 4,8 millions d'hectares de terre et $27 millions d'aides gouvernementales. Elle fonda le crédit immobilier auquel elle versa 94 millions de dollars pour la construction de la ligne, qui ne coûta au final que 44 millions. Des actions de la compagnie étaient vendues à des prix défiant toute concurrence à certains membres du Congrès afin d'empêcher toute enquête un peu approfondie. Cette idée émanait du représentant du Massachusetts, Hawks Ames, par ailleurs fabricant de pelleteuses et directeur du crédit immobilier, qui déclarait qu'il était normal que les gens veillent à la bonne marche de leurs affaires. La Union Pacific employa 20 000 personnes, des vétérans de la guerre de sécession et des immigrés irlandais qui posaient jusqu'à 8 km de voie par jour et mouraient par centaines à cause des conditions climatiques extrêmes et des combats contre les Indiens qui s'opposaient à l'invasion de leur territoire.
I'm sick to my death of the railway. Oh, Paddy was on the railway.
Les deux compagnies empruntèrent les parcours les plus longs et les plus compliqués, dans l'unique but d'obtenir des financements de la part des villes qu'elles traversèrent. La jonction des deux lignes eut lieu en Utah en 1869, au milieu des flonflons et des beaux discours. La fraude généralisée dans les chemins de fer entraîna un contrôle accru des banques sur le financement des compagnies ferroviaires. Ces banques souhaitaient plus de stabilité. Autrement dit, elles préféraient des bénéfices garantis par la loi et non par le vol. Dans les années 1890, la plupart des compagnies ferroviaires américaines fusionnèrent en six grands réseaux, dont quatre étaient partiellement ou totalement contrôlés par la maison Morgan et les deux autres par les banquiers Kuhn, Loeb & Co. J.P. Morgan avait débuté avant la guerre. Son père était banquier et avait fait fortune en vendant des actions de chemin de fer sur lesquelles il prenait de solides commissions. Pendant la guerre de sécession, Morgan acheta un arsenal militaire, 5000 fusils à 3,5 $ pièce qu'il revendit à un général 22 $ chaque. Ces fusils défectueux auraient arraché le pouce de tout soldat qui s'en serait servi. Le fait fut signalé par un obscur rapport du Congrès, mais il se trouva un juge fédéral pour objecter que cet échange commercial s'appuyait sur un contrat juridiquement valide. Morgan avait échappé au service pendant la guerre de sécession en se payant un substitut pour 300 $. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Philip Armour, Jay Gould et James Mellon firent de même. Le père de Mellon lui écrivait « Un homme peut être patriote sans pour autant risquer sa vie ou sa santé. De nombreuses autres vies ont bien moins de valeur que la tienne. » Le gouvernement des États-Unis confia à la banque Drexel Morgan & Co. la tâche d'émettre pour 260 millions de dollars de bons du gouvernement. Le gouvernement aurait sans doute pu le faire lui-même, mais il préféra apparemment verser 5 millions de dollars de commissions aux banquiers. En 1895, la réserve d'or américaine était au plus bas, alors que 26 banques new-yorkaises renfermaient dans leurs coffres près de 129 millions en or. Un syndicat de banquiers emmené par J.P. Morgan & Co., August Mellman & Co., la National City Bank et d'autres offrit au gouvernement de lui confier de l'or en échange de bons du trésor. Le président, Grover Cleveland, accepta. Les banquiers revendirent immédiatement les bons à un prix plus élevé, empochant ainsi une plus-value de 18 millions de dollars. Tout en bâtissant sa fortune, Morgan rationalisa et organisa l'économie nationale. Il réussit à assurer la stabilité du système. Il avait d'ailleurs l'habitude de déclarer que l'Amérique ne veut plus de convulsions financières, ni avoir quelque chose un jour et quelque chose d'autre le lendemain. Il regroupa les compagnies ferroviaires, dont il lia les intérêts aux banques, lesquelles s'adossèrent aux compagnies d'assurance. En 1900, il contrôlait 160 000 km de voies ferrées, la moitié du réseau américain. Trois compagnies d'assurance, contrôlées par le groupe Morgan, possédaient $1 milliard en avoir effectif. Elles pouvaient investir $50 millions par an, de l'argent versé par des gens ordinaires pour payer leur police d'assurance. Pour sa part, John D. Rockefeller débuta comptable à Cleveland, devint négociant, fit fortune et comprit bientôt que, dans l'industrie pétrolière, contrôler les raffineries permettait de contrôler l'industrie tout entière. Il acheta donc sa première raffinerie en 1862 et créa en 1870 la Standard Oil Company of Ohio. Après avoir passé des accords secrets avec des compagnies ferroviaires pour transporter son pétrole au meilleur prix, il se débarrassa de la concurrence. Un raffineur indépendant déclara plus tard que les autres raffineurs avaient dû liquider sous peine d'être écrasés. Il n'y avait qu'un seul acheteur sur le marché et on devait se plier à ses exigences. On peut aussi lire dans les archives de l'administration de la Standard Oil des mêmes mots de ce type. Wilkerson & Co. a été livré en pétrole le lundi 13. Il va encore falloir donner un tour de vis. À Buffalo, une raffinerie concurrente fut détruite dans une petite explosion organisée par des responsables de la Standard Oil, avec l'aide du chef mécanicien de la raffinerie. En 1899, la Standard Oil Company formait un véritable holding qui contrôlait financièrement de nombreuses autres firmes avec un capital de $110 millions et de bénéfices annuels s'élevant à $45 millions. La fortune personnelle de John D. Rockefeller était estimée à $220 millions. Assez rapidement, il allait s'introduire dans les industries du fer, du cuivre, du charbon, des transports et de la finance. Les profits qu'il en tira s'élevaient à $81 millions par an. La fortune des Rockefeller atteignit bientôt $2 milliards. Quant à Andrew Carnegie, il avait été mécanicien télégraphiste à l'âge de 17 ans, avant de devenir secrétaire du président de la Pennsylvania Railroad, puis courtier à Wall Street, où il prenait de juteuses commissions sur la vente d'actions de compagnies ferroviaires. Il fut rapidement millionnaire. De passage à Londres en 1872, il prit connaissance du procédé Bessemer pour l'acier. À son retour aux États-Unis, il mit sur pied une aciérie d'une valeur $1 million. Les tarifs douaniers extrêmement élevés, judicieusement votés par le Congrès, permirent de contenir la concurrence étrangère. En 1880, Carnegie produisait quelque 10 000 tonnes d'acier par mois, générant $1,5 million de bénéfices annuels. En 1900, ce chiffre s'élevait à $40 million. La même année, lors d'un dîner, il accepta de vendre ses aciéries à J.P. Morgan. Il en griffonna le prix sur un bout de papier, $492 millions. Morgan créa alors la US Steel Corporation, fruit d'une fusion entre la firme de Carnegie et d'autres aciéries américaines. Il vendit ensuite des actions et des bons pour une valeur de $1,3 milliard. Quelques 400 millions de plus que la valeur combinée de toutes les entreprises. Et s'octroya une commission de $150 millions pour l'organisation de toute l'opération. Comment pouvait-on payer de tels dividendes aux actionnaires et aux obligataires? Tout simplement en s'assurant que le Congrès imposerait des tarifs douaniers qui permettraient de tenir les aciers étrangers à l'écart du marché américain, en éliminant la concurrence et en maintenant le prix de l'acier à $28 la tonne, en faisant travailler 200 000 personnes 12 heures par jour pour des salaires leur permettant à peine de nourrir leur famille. Ce processus se répéta à peu de choses près dans tous les secteurs industriels. Des hommes d'affaires astucieux et efficaces bâtissaient des empires, se débarrassaient de la concurrence, maintenaient des prix élevés et des salaires bas, et profitaient du soutien financier du gouvernement. Ces industries furent en fait les premiers bénéficiaires de cette sorte d'état-providence. Au tournant du siècle, l'American Telephone and Telegraph avait le monopole du réseau téléphonique national. L'International Harvester détenait 85% des parts de marché dans le secteur du matériel agricole. Dans tous les autres secteurs, les ressources étaient également de plus en plus concentrées et de plus en plus contrôlées. Les banques possédaient des intérêts dans de si nombreux trusts qu'elles purent mettre sur pied un réseau complexe de grands dirigeants d'entreprises qui étaient tous également membres des directoires des autres entreprises. Selon un rapport sénatorial du début du XXe siècle, Morgan, au sommet de sa gloire, siégeait dans 48 conseils d'administration, tandis que Rockefeller se contentait de participer à 37 de ses organes de direction. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.